France Inter, franceinter.com.
Un autre monde est possible. Charte de l'altermondialisme. Deux mille ans d'histoire. Que peuvent avoir en commun un paysan du Chiapas et un ouvrier de chez Renault, José Bové et Desmond Tutu, un lecteur du Monde diplomatique et un agriculteur du Kenya? Rien sinon la peur d'un mot, la mondialisation. Un mot qui est né il y a plus de 50 ans, lorsque les progrès des transports et des communications et la libéralisation des échanges ont ouvert les économies nationales sur un marché mondial. Surtout lorsqu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, cette mondialisation s'est faite sur le modèle unique du capitalisme libéral. Celui que défendent encore toutes les institutions financières et les organisations économiques internationales, depuis le FMI et la Banque mondiale, jusqu'à l'OCDE et l'Union européenne, en passant par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui en 1999, à Seattle, réunissait pour la troisième fois les ministres de l'économie et des finances de ses membres. Mais aucun d'eux n'imaginait l'accueil qui leur serait réservé. France Inter, Dominique André, le 30 novembre 1999.
Il est 9h du matin, quelques milliers de jeunes envahissent le centre de Seattle pour dire non à tout et surtout au WTO, l'OMC, responsable de tous les maux. Une deuxième manifestation se met en route avec des syndicats, José Bové et la CGT qui a fait le voyage avec ses slogans. Très vite, le centre-ville est paralysé. La cérémonie d'ouverture du sommet doit être annulée. La nuit tombe, dispersion des manifestants, mais de jeunes casseurs et des grunges cassent des vitrines. Tirs de gaz lacrymogène, le maire décide l'état d'urgence annoncé par la télévision locale.
Face à l'OMC, on existe encore. En 1999, on existe encore. On, c'était un mouvement dont on n'avait pas encore entendu parler, l'altermondialisme, auquel mon invité d'aujourd'hui a consacré plusieurs livres. Eddy Fougier, bonjour.
Bonjour.
On dit souvent justement que l'altermondialisation, on disait d'ailleurs à l'époque l'antimondialisation, est née à Seattle en 1999. Or, dans un livre, l'altermondialisme, qui vient de sortir au Cavalier Bleu, vous rappelez que c'était pas sa première, ou plutôt que ce n'était que sa première apparition sur la scène médiatique. En réalité, ce qu'on n'appelle pas encore l'altermondialisme s'était manifesté déjà. Au fond, il est un peu contemporain de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire le mondialisme.
Et la mondialisation, au sens libéral tel qu'ils peuvent le dénoncer. Effectivement, on voit apparaître différents déjà contre-sommets à partir des années 80. Le premier contre-sommet officiel était à Londres en 1984, mais on se souvient beaucoup mieux du contre-sommet de 89 à l'occasion du G8, enfin du G7 à l'époque de l'Arche de la Défense. Et puis se mettent en place, notamment au début des années 90, un certain nombre d'organisations, un certain nombre de mobilisations contre différents projets qui sont le véhicule de la mondialisation à l'époque. On peut penser notamment à la zone de libre-échange nord-américaine entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. On voit apparaître un certain nombre de mouvements contestataires à ce moment-là, nord-atlantique. On voit aussi à travers le débat sur Maastricht au sein de l'Union européenne avec la mise en place de l'Union économique et monétaire, un premier débat public et politique sur l'intégration économique et monétaire européenne, avec des mouvements qu'on va retrouver plus tard au sein d'ATTAC. On voit également qu'il y a un renforcement de l'intégration commerciale avec les débats sur le GATT qui vont se transformer en 1995 en la création de l'OMC. Donc la mondialisation monte en puissance et génère une contestation qui se structure progressivement et qui se réunit pour la première fois à Seattle et qui est visible pour la première fois à Seattle.
Une mondialisation libérale, vous le rappelez aussi, ce sont les années où Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne prônent le libéralisme. Le mur de Berlin s'est effondré, il n'y a plus d'obstacles à ce libéralisme qui devient la forme unique au fond que prend l'essor de ces échanges. Et puis vous l'avez mentionné aussi, il y a exactement 10 ans, c'est-à-dire avant Seattle, c'est la création d'ATTAC, hein, à la suite d'un article d'Ignacio Ramonet dans Le Monde diplomatique en 97. Ignacio Ramonet rappelait la nécessité que toutes ces manifestations qui se faisaient en ordre dispersé se regroupent.
Le contexte d'apparition d'ATTAC, c'est, on s'en souvient, 1997-1998, la crise financière en Asie et la dénonciation des excès déjà du capitalisme financier, excès qu'on dénonce encore aujourd'hui avec l'affaire de la Société Générale, la crise des subprimes. À cette époque, Ignacio Ramonet écrit un article, un éditorial dans Le Monde diplomatique en décembre de l'année 97 qui s'appelle « Désarmer les marchés ». Donc on comprenait très bien la volonté de Ramonet. Et il appelle dans cet article à deux choses, à la mise en place d'une taxe Tobin, déjà à l'origine d'ATTAC.
Une taxe sur les produits financiers.
Voilà, une taxe sur les transactions financières. Et,
internationale, c'est ça,
oui,
c'est
oui, ce qu'il nous faut. Oui. Ou européenne, comme ça a été le cas plus tard pour ATTAC. Et la mise en place d'une association qui s'appellerait ATTAC pour défendre cette idée de taxe Tobin. Suite à cet éditorial, Le Monde diplomatique reçoit des milliers de lettres en disant « D'accord ». Faisons cette association et petit à petit se mettent en place des accords entre des mouvements sociaux, des syndicats, des citoyens qui aboutit selon une sorte de génération spontanée à la création d'ATTAC le 3 juin 1998, c'est-à-dire exactement 10 ans.
Et un mouvement qu'on appelait encore anti-mondialiste qui se manifeste, on l'a entendu, à Seattle en 1999 et 13 mois plus tard à Porto Alegre, France Inter, Fabrice Drouel, le 26 janvier 2001.
Distorsion au sommet, au moment où commence le forum mondial de Davos, les anti-mondialisations organisent le forum social à Porto Alegre, au Brésil.
France Inter.
Davos, Suisse, Porto Alegre, Brésil, où deux visions radicalement différentes du monde. À Davos, c'est le traditionnel forum mondial de l'économie où se côtoient les têtes pensantes de la finance et du capitalisme triomphant. À Porto Alegre, c'est tout le contraire, comme l'indique d'ailleurs son intitulé « Forum social, mosaïque colorée des anti-mondialisations qui refusent la loi du plus fort ».
Bienvenue à Porto Alegre,
au
Forum social mondial.
Tu és a joia rara nessa passarela.
Não, não, não. Capitalismo não. Vivimos socialismo e a revolução.
Et c'était à Porto Alegre en janvier 2001, le premier sommet alter-mondialiste ou anti-mondialiste, on a entendu Fabrice Drouel dire anti-mondialiste, organisé par le Forum Social Mondial. C'est une organisation, mais ce n'est pas à proprement parler une structure. L'alter-mondialisme, et c'est ça qui d'ailleurs le rend difficile à définir et à cerner, n'a pas de structure.
Il n'y a pas d'international altermondialiste. Ça, il faut éviter de comparer les mouvements passés, l'international communiste ou d'autres internationales, et ce qui se passe aujourd'hui. Et le Forum social mondial n'est en aucun cas un congrès annuel de ce que serait cet international. Donc c'est une structure assez novatrice d'un certain point de vue. C'est une confédération, une nébuleuse de différents groupes qui se reconnaissent à la fois sur le fond dans cette critique de la mondialisation libérale et sur la forme, sur un certain nombre de principes, notamment des principes d'autonomie par rapport au gouvernement et par rapport aux partis politiques, des principes d'égalité entre les différents membres, c'est-à-dire il y a un refus total de hiérarchie, de mouvement d'avant-garde, de leader ou d'idéologie. Ils prônent un pluralisme idéologique dans le cadre de la critique de la mondialisation libérale, mais un pluralisme idéologique. Donc, tout ça fait que ces forums se réunissent chaque année ou une fois tous les deux ans selon le lieu dans lequel ils sont organisés, pour mettre en place des débats, des échanges d'expériences. Et puis, c'était aussi l'objectif des forums, mais là, on aboutit à un certain nombre de limites, mettre en place des propositions pour une alternative, pour l'autre mondialisation qu'ils appellent de leur vœu.
Le Forum social mondial se définit même comme un lieu de rencontre, de débat, et pas du tout comme une organisation qui dirigerait un mouvement altermondialiste, vous l'avez dit, qui est effectivement composé d'un très grand nombre de tendances, des syndicats, des ONG, il y a des journaux aussi qui le soutiennent, des organes médiatiques, il y a en France Le Monde diplomatique et Charlie Hebdo, par exemple. Alors, pas de structure, pas de chef, mais des personnalités quand même aussi célèbres que José Bové, hein, dont on va parler, ou encore le chef de l'armée zapatiste de libération nationale au Chiapas, le sous-commandant Marcos, au micro de Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet, en 2001.
Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia mundial y nacional.
Nous sommes le symptôme d'un mouvement de résistance nationale et internationale.
A una lógica que se presentaba como implacable, la de la globalización.
A une logique qui avait l'air implacable, celle de la globalisation.
Estamos ahorita en la puerta de dejar una forma de hacer política.
Nous sommes au moment de laisser une manière de faire de la politique pour en faire une autre.
Pensamos que el poder.
Nous pensons que le pouvoir.
No está ya en los estados nacionales.
N'est plus dans les états nationaux.
El poder está en los grandes centros financieros.
Le pouvoir est dans les grands centres financiers.
Y finalmente lo que vamos a hacer es cambiar una visión del mundo por otra visión del mundo.
Et ce que nous voulons, ce que nous allons faire, c'est changer une vision du monde contre une autre vision du monde.
Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl.
¿Quién vive?
¡La patria!
¿Qué queremos?
¡La libertad y justicia!
¿Cómo sea nuestro país?
¡México!
¿Cómo sea nuestro estado?
¡Chiapas!
¡Que vivan los niños y niñas zapatistas!
¡Viva!
Alors, l'altermondialisme ne cherche pas le pouvoir, mais quand même, il y est présent. En Amérique latine, il est incarné notamment par le sous-commandant Marcos, vous le rappelez, Eddy Fouché. Il n'y a pas de parti politique au sein du Forum social mondial, mais il y a quand même une incarnation de l'altermondialisme au pouvoir. Il y a Marcos avec la révolte du Chiapas, il y a aussi Hugo Chavez au Venezuela, il y a également Evo Morales en Bolivie. Au fond, l'Amérique latine, c'est le laboratoire de l'altermondialisme.
C'est tout à fait le laboratoire de l'altermondialisme. Ça n'est pas un hasard si les forums sociaux mondiaux, au départ, ont été organisés à Porto Alegre, ville dirigée par le Parti des Travailleurs. Ça n'est pas un hasard non plus si les dirigeants, même si les partis politiques ne sont pas admis au Forum social mondial, mais des dirigeants comme Lula ou Hugo Chavez, Lula avant qu'il n'arrive au pouvoir au Brésil et après une fois qu'il était président du Brésil, et Hugo Chavez en tant que président du Venezuela, sont intervenus au Forum social mondial. Et ça n'est pas un hasard non plus si c'est dans le cadre du Forum social mondial que Hugo Chavez a appelé les altermondialistes à créer un socialisme du 21e siècle. Auquel se réfèrent aujourd'hui un certain nombre d'altermondialistes français. Donc, il y a une connexion, si ce n'est des personnes et des groupes, mais au moins des idées, entre un certain nombre de gouvernements et les altermondialistes. Alors, c'est vrai que les altermondialistes ont placé beaucoup d'espoir au début, on l'a un peu oublié, mais dans le gouvernement de Lula, avant d'être déçus par une approche un peu trop réaliste, pour aller vite. Et Hugo Chavez et Evo Morales sont devenus aujourd'hui, en grande partie, sont considérés comme des laboratoires d'expérimentation des idées altermondialistes. Je dirais encore plus pour Evo Morales, qui a la double particularité de venir des mouvements sociaux lui-même. Ça n'est pas un militaire qui a tenté un coup d'État, contrairement à d'autres. Il est aussi un Amérindien, ce qui est assez symptomatique. C'est un paysan amérindien. Pour moi, c'est assez symptomatique de ce qu'est l'altermondialisme. L'altermondialisme, ça n'est pas le mouvement ouvrier qui fait de l'ouvrier l'incarnation de la victime du capitalisme. C'est plutôt le paysan amérindien qui est la victime à la fois à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, du capitalisme libéral, entre guillemets, et de ses effets.
Et ce n'est pas seulement, comme on l'a accusé longtemps, une force de contestation, de protestation, c'est devenu une force de proposition, et c'est pourquoi, au nom de anti-mondialiste, c'est substitué le nom de alter-mondialiste, proposant donc un autre monde est possible, dit la charte du Forum social mondial. Quelles sont les propositions concrètes, justement, de l'alter-mondialisme, dit Fougier ?
Alors, comme les mouvements qui participent de cette nébuleuse, les propositions sont innombrables. C'est quasiment un inventaire à la Prévert. On peut les regrouper en trois types de propositions. La première, ça serait de créer un nouvel ordre économique mondial qui soit plus favorable aux pays du Sud et qui soit plus favorable aux catégories sensibles et exposées à la mondialisation dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, notamment par une redistribution des richesses, par exemple par l'annulation de la dette des pays du Sud ou la création d'une fiscalité globale, donc une redistribution des richesses générées par la mondialisation au profit de ceux qui en sont les victimes. La deuxième grande proposition des altermondialistes, c'est de délimiter ce qui doit relever du marché, ce qui doit le relever du bien commun, et en définissant de façon stricte ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle généralement, les biens publics globaux. Et c'est le cas, par exemple, de l'eau. On le sait en Amérique latine que les altermondialistes ont été vif dans la contestation de la privatisation de l'eau. On le sait aussi, les altermondialistes mettent l'accent sur la souveraineté alimentaire, surtout en ces temps de crise alimentaire, c'est un thème qui revient à la mode. Donc, il y a l'idée qu'un certain nombre de biens ne doivent pas faire l'objet d'une marchandisation pour reprendre leur terme.
Vous citez aussi les ressources génétiques, écosystèmes, les semences, la culture, l'identité des peuples, un refus de la marchandisation de la culture, c'est un de leurs thèmes les plus importants. Alors, ce sont évidemment des thèmes qui font l'unanimité, même s'ils gênent ceux qui souhaitent la privatisation justement de ces biens communs de l'humanité. En revanche, ces altermondialistes se manifestent, et là, on peut le leur reprocher, même s'ils sont parfois les victimes, se manifestent parfois de façon violente, à la fois victimes et auteurs d'ailleurs de la violence qui émanent leur contre-manifestation, comme celle qui était organisée à Gênes à l'occasion du sommet du G7 devenu G8. En 2001, le 20 juillet 2001.
Le sang a coulé à Gênes, en Italie, où se déroule le sommet du G8. Un militant anti-mondialisation a été tué. On ne connaît pas encore exactement les circonstances de son décès. Deux personnes seraient entre la vie et la mort. Des dizaines de manifestants et de policiers ont été blessés dans des affrontements. La ville ressemble à un véritable champ de bataille.
Au son du tambour, ils arrivent presque au pas militaire. Tout en noir. Des casques rangers, ils sont aussi bien équipés que les policiers anti-émeutes qui leur font face. Un coup d'œil aux forces de l'ordre, demi-tour, eux, franchir la zone rouge, ça ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est casser.
Chirac, il devrait être en prison, Berlusconi fait partie de la mafia, Bush, c'est vraiment le gars qui veut niquer la planète, Poutine, c'est un fasciste, ils sont en train de concentrer le grand capital, il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim sur cette planète, alors c'est pour ça que je viens ici et je justifie mon action de tout casser, de casser les banques, de casser les voitures, qui sont le symbole du capitalisme et de cette société de merde, et si je vois un keuf aujourd'hui, ma parole que si je peux, je le bute.
Et c'était un militant altermondialiste au sommet de Gênes en 2001, un militant violent, ce qu'on appelle un black bloc, Elie Fougier.
Oui, c'est vrai que dans leur premier reportage de Dominique André à Seattle, elle parlait de casseurs. En fait, ce sont plus des black blocs, parce que les casseurs cassent pour casser ou pour dérober. Les black blocs sont dans une logique de plus anarchiste, une logique politique, c'est-à-dire ils cassent volontairement dans un objectif tout simplement de sabotage économique, c'est-à-dire détruire un certain nombre de cibles assez symptomatiques, soit de la richesse, donc là ce jeune homme parlait de casser des automobiles de luxe, ou des vitrines d'entreprises multinationales. On peut penser à une entreprise qui fabrique des hamburgers par exemple. Oui.
Alors, à la fois auteur et victime, on l'a entendu également, car à Gênes, il y a eu mort d'homme, il y a eu mort d'un des manifestants altermondialistes. À Gênes, c'est dire à quel point cette manifestation a été violente, une des plus violentes d'ailleurs de toutes celles de l'altermondialisme depuis sa naissance. Autre reproche qui est fait souvent à l'altermondialisme, c'est de passer de temps en temps sur le plan politique, de s'éloigner de leurs revendications initiales, contre la guerre en Irak, par exemple, en manifestant, ils sont à l'origine des grandes manifestations internationales contre l'intervention américaine en Irak, ou encore contre la politique israélienne, si bien d'ailleurs qu'ils sont parfois aussi accusés d'être antisémites, dit Fougier.
Alors, c'est vrai que c'est, je dirais, le talon d'Achille de la... L'altermondialisme, au début, a été les débordements de certains éléments radicaux en termes de violence. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le cadre des forums sociaux et notamment donc, des manifestations anti-guerre, le talon d'Achille est quelques dérives dans la critique très forte de la politique américaine, de la politique israélienne, d'un antisionisme radical, voire plus, c'est-à-dire d'un antisémitisme, en ayant des relations quelquefois un peu troubles avec certaines personnalités assez controversées, comme Tariq Ramadan, qui a été présent dans différents forums sociaux. Il y a eu quelques petites tensions entre altermondialistes, notamment par exemple au Forum social européen à Londres en 2004, au sujet du voile islamique, où il y a eu un certain nombre d'altermondialistes français qui ont été chahutés parce qu'ils étaient favorables à la loi sur le voile. Ce sont des sujets qui sont, dans beaucoup de pays, qui sont très critiqués. On perçoit effectivement l'altermondialisme comme un mouvement antisémite. Je dirais qu'au sein de... Il faut être très prudent. Il faut être très prudent avec cette question. Et il faut voir aussi qu'au sein du mouvement, il y a des débats très très vifs entre ceux qui veulent des relations claires et nettes avec des mouvements islamistes et ceux qui sont beaucoup plus réticents face à cette dérive possible.
En fait, ça vient tout simplement du caractère très hétéroclite justement de l'altermondialisme où l'on trouve aussi bien des militants français de la LCR qu'un évêque sud-africain qui, il y a un an, participait au 7e Forum social mondial qui se réunissait pour la première fois en Afrique. France Inter, Philippe Habitboul, le 20 janvier 2007.
Le Forum social mondial, 7e édition, se tient à Nairobi au Kenya. Il va durer 5 jours. C'est le rendez-vous des altermondialistes, ceux qui rêvent d'un monde meilleur et qui cherchent les moyens de le construire. C'est la première fois que le Forum fait escale en Afrique, un continent pour lequel cela représente beaucoup d'espoir. Pour cette première journée, deux temps forts. Il y a eu ce matin la marche d'ouverture. Second temps fort, le sermon de Mgr Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix et figure de proue de l'altermondialisme africain, Dominique André.
Dans un sermon d'une demi-heure, théâtral, l'archevêque sud-africain lance un appel au peuple du Nord. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi pour qu'on ait un monde où les riches savent qu'ils doivent donner plus et qu'ils doivent partager, qu'ils doivent nous aider. Tous ceux d'entre nous, riches et pauvres, la seule manière d'être libre, c'est d'être ensemble.
José Bové retourne en prison, c'était le bon temps, les fêtes devant la maison d'arrêt, c'était chouette, puis il lui manque plein de tocolants. Depuis que sa mère adhère à Attaque, elle parle avec elle de paradis fiscaux, de la sortie de la guerre en Irak et de celle du prochain trio. L'été dernier, elle est allée faucher avec sa mère un champ de maïs transgénique. Quand elle a entendu dire v'là les poulets, elle a crié faut pas qu'ils en mangent, c'est toxique. Pareil pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune à 7 ans et demi. 7 ans et demi pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. C'est ce que son père lui. Elle n'aime pas trop Charlie Hebdo. Il y a trop de gros mots. Sa mère lui a dit de lire plutôt Le Monde Diplôme. Mais là, elle trouve les mots trop petits. Pareil que pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune à 7 ans et demi. 7 ans et demi pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. c'est ce que son père lui dit.
Les Malpolis, l'altermondialisme, peut-être on vient de l'entendre, une jeune fille de 7 ans et demi ou un évêque africain de 77 ans, c'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. C'est rarement, vous le rappelez, dit Fougier, d'ailleurs, les personnes les plus concernées par leurs propositions, c'est-à-dire les pauvres, hein, c'est plutôt les classes moyennes des pays riches qu'on trouve dans ce mouvement. Quel est son bilan, puisqu'il existe depuis 10 ans, en quoi a-t-il fait avancer les choses, dit Fougier?
Alors, il a fait avancer les choses principalement dans le débat et sur les perceptions. Dans le débat parce qu'ils ont soulevé un débat là où il n'existait pas, c'est-à-dire qu'ils ont créé un débat sur la mondialisation qui était jusqu'alors, jusqu'à avant 98 ou 99, un débat plutôt entre universitaires. À partir de ce moment-là, c'est devenu un débat public qui intéressait une partie de l'opinion, une partie des lecteurs du monde diplomatique, pour reprendre les termes de la chanson, même si les termes sont écrits en caractère très petit. Donc ils ont créé un débat là où il n'existait pas. L'exemple le plus typique, c'est les OGM. On le voit ces jours-ci encore avec la législation qui est en train d'être discutée en France. Ils ont également une influence sur les perceptions, même si, comme vous le dites, les principales personnes qui sont exposées dans les pays du Nord aux effets les plus néfastes de la mondialisation n'y sont pas sensibles. Mais tout de même, aujourd'hui, il y a un sentiment de crainte, si ce n'est d'inquiétude face à la mondialisation dans un certain nombre de pays qui ont été nourris par les argumentations, les discours, les critiques des altermondialistes.
Donc ce n'est pas une utopie, hein, même si, les mesures qui sont prises en fonction de la recommandation sont récupérées en quelque sorte par les États. Mais c'est un mouvement qui s'essouffle, dit-on. On a le sentiment que c'est un peu le cas. Il n'y a pas de forum social mondial cette année, par exemple, pour la première fois depuis Porto Alegre.
Il y a eu un forum social décentralisé, c'est-à-dire chacun a organisé chez soi son petit forum social, une sorte de 1er mai en janvier. L'idée d'essoufflement, moi je parlerai plus de fin de cycle. On sent qu'il y a effectivement la dynamique des forums sociaux atteint une certaine limite et on le voit aujourd'hui sur les interrogations qui sont au cœur du mouvement, qui sont sur le débouché politique. Est-ce qu'on se transforme en parti politique et est-ce qu'on soutient des gouvernements ou on participe à des gouvernements?
Merci Aidé Fougier. Pour en savoir plus, on peut lire plusieurs de vos livres. L'altermondialisme, publié aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection Idées Reçues. Le dictionnaire analytique de l'altermondialisme, publié chez Ellipse. Et puis Altermondialisme, le nouveau mouvement d'émancipation, publié en 2004 aux éditions Ligne de Repère. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Fabrice Desmaz et Alain Gadan, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gilry, une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans notre émission, Émile Zola de l'affaire Dreyfus au Panthéon où il est entré le 4 juin 2008, il y a exactement 100 ans.